de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. L'IRENA salue le sérieux de l'Indonésie envers la transition énergétique. L'Indonésie et le Japon conviennent de renforcer leur coopération maritime et énergétique. Le Premier ministre Kishida qualifie la visite du président Jokowi d'élan pour renforcer les deux pays. L'Indonésie et le Japon signeront les modifications de l'IJEPA en marge du sommet du G20. L'Indonésie invite les membres du G20 à trouver des solutions aux défis alimentaires mondiaux. Erlangga espère que le G20 pourra relever les défis du commerce mondial. Et le ministre indonésien du droit et des droits de l'homme ajoute trois pays soumis à un visa de visite à l'arrivée en Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, salue la grande attention et le sérieux de l'Indonésie dans la mise en œuvre du programme de transition énergétique en passant de l'utilisation des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Le directeur général de l'IRENA, Francesco La Camera, dans une interview en marge de sa visite de travail à Jakarta mercredi, a déclaré qu'en Indonésie, l'IRENA a vu beaucoup d'attention à la transition et politiquement, il y avait beaucoup d'attention. Francesco a également salué la décision de l'Indonésie de placer la transition énergétique comme l'un des principaux sujets à l'ordre du jour du G20. Il a avoué qu'il n'hésitait pas à collaborer avec l'Indonésie dans le développement des énergies renouvelables. Selon lui, les démarches entreprises par l'Indonésie au sein du forum du G20 montrent un sentiment de priorité envers le programme de transition énergétique. Sous la présidence du G20, l'Indonésie a évoqué trois questions prioritaires liées au thème de la transition énergétique. Francesco a déclaré que la baisse des coûts des énergies renouvelables qui s'est produite au moins au cours des trois dernières années avait augmenté la capacité installée des productions mondiales d'énergie renouvelable. Fin 2021, l'IRENA a noté que la capacité de production d'électricité basée sur les énergies renouvelables atteignait 3064 gigawatts, soit une augmentation de 9,1% équivalent à 257 MW par rapport à l'année précédente. Les gouvernements indonésiens et japonais ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines maritimes, de l'investissement, de l'environnement et de l'énergie. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, dans une déclaration reçue à Jakarta, a expliqué mercredi qu'afin de renforcer la paix et la sécurité dans la zone maritime entourant l'Indonésie, le Japon soutiendra davantage l'augmentation des capacités maritimes, y compris les recherches menées pour la coopération en matière de subventions aux navires patrouilles. Le premier ministre Kishida l'a déclaré lors de la visite du président indonésien Joko Widodo au bureau du premier ministre japonais à Tokyo. Il s'est félicité du mémorandum de coopération dans le secteur de la sécurité maritime qui a été signé. Il a poursuivi qu'en août 2022, les forces d'autodéfense terrestre japonaises participeront à l'exercice conjoint multilatéral Garuda Shield organisé en Indonésie. En outre, l'Indonésie et le Japon ont également convenu de coopérer dans le secteur des infrastructures. Kishida a également déclaré que lui et Joko Widodo faisaient pression pour une coopération plus étroite afin de créer une communauté asiatique zéro émission ainsi qu'une coopération dans les domaines de la décarbonation et de l'énergie. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que la visite du président Joko Widodo à Tokyo était un élan pour renforcer les relations entre les deux pays. Dans un communiqué de presse conjoint au bureau du premier ministre japonais à Tokyo mercredi, il a expliqué que son parti utiliserait la visite du président Joko Widodo comme un élan pour renforcer les relations entre le Japon et l'Indonésie. Les deux pays commémoreront l'année prochaine 65 ans de relations diplomatiques et 50 ans d'amitié et de coopération entre le Japon et l'ASEAN. Commençant le programme de travail à Tokyo, Jokowi a tenu une réunion avec lui au bureau du premier ministre japonais. Avec l'Indonésie, le Japon contribuera à la paix et la stabilité mondiale. Selon lui, Jokowi a également accepté de lever toutes les restrictions sur les importations de produits alimentaires en provenance du Japon. Il a également déclaré que le Japon continuerait à soutenir les efforts de l'Indonésie pour présider le G20 vers le succès du sommet du G20 à Bali. Le gouvernement indonésien et japonais ont convenu de finaliser immédiatement le protocole de modification de l'accord de partenariat économique Indonésie-Japon, IGEPA, et de procéder à une procession de signature en marge du sommet du G20 à Bali en novembre. C'est l'un des accords conclus lors de la rencontre du président Joko Widodo avec le premier ministre japonais Kishida Fumio à Tokyo, Japon, mercredi. Le président Jokowi, lors d'une conférence de presse avec le premier ministre Kishida, selon un communiqué de presse reçu à Jakarta, a expliqué que, lors de la réunion, ils s'étaient mis d'accord sur beaucoup de choses. Les deux pays ont convenu que le protocole d'amendement de l'IGEPA pourrait être finalisé et signé lors du sommet du G20 à Bali en novembre prochain. En outre, les deux dirigeants des pays ont également convenu de renforcer la coopération indonésienne-japonaise dans les domaines du commerce et de l'investissement lors de la réunion. En particulier, le président Joko Widodo a demandé au Japon de fournir un soutien sous la forme d'une réduction des droits de douane pour plusieurs produits, dont le thon, la banane et l'ananas, ainsi que l'accès au marché des produits à base de mangue. Le président Jokowi a salué un certain nombre de nouveaux investissements japonais en Indonésie et a exprimé son appréciation pour un certain nombre de projets qui ont été achevés, tout en invitant le Japon à faire de nouveaux investissements dans un certain nombre de domaines. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Kasdi Subagiono, a déclaré lors de la deuxième réunion du groupe de travail adjoint sur l'agriculture que l'Indonésie a invité les membres à s'engager et à travailler ensemble pour trouver des solutions efficaces et concrètes aux défis alimentaires mondiaux. Au cours de la réunion, Kasdi a encouragé à convenir d'un projet de communiqué du ministre de l'Agriculture du G20 relatif à trois principales questions prioritaires dans le secteur agricole qui avait été préparé sur la base des contributions de toutes les parties qui seraient ensuite soumises par le ministre de l'Agriculture à la réunion ministérielle Agriculture du G20 fin septembre 2022. À Bali. Kasdi a déclaré que le groupe de travail sur l'agriculture du G20 Indonésie 2022 porte le thème « Équilibrer la production et le commerce alimentaire pour assurer la nourriture pour tous », qui vise à refléter l'engagement du G20 à assurer un approvisionnement alimentaire suffisant pour tous. Le ministre coordinateur des Affaires économiques, Erlang Hartanto, espère qu'une approche multilatérale qui ne limite pas les exportations et les importations doit continuer à être menée afin que les performances commerciales ne soient pas affectées par les défis mondiaux. Par conséquent, selon lui, les approches multilatérales telles que le forum du G20 doivent être renforcées pour soutenir les secteurs du commerce, de l'investissement et de l'industrie qui ont été le moteur de la croissance économique du pays. Erlangga, dans une déclaration à Jakarta mercredi, après avoir participé à l'activité du groupe de travail du forum de haut niveau sur le commerce, l'investissement et l'industrie TIIWG, a déclaré que le G20 est devenu une plateforme stratégique pour répondre à ces défis. Erlangga a déclaré que l'Indonésie avait été obligée d'obtenir le soutien d'autres membres du G20 pour définir l'orientation stratégique des chaînes d'approvisionnement mondial, ainsi que pour renforcer la confiance des institutions multilatérales telles que l'Organisation mondiale du commerce OMC, qui est conforme à la présidence du G20. Le gouvernement indonésien, par intermédiaire de la Direction générale de l'immigration du ministère du Droit et des Droits de l'Homme, a ajouté trois pays en tant que sujet de visas spéciaux d'arrivée touristique ou des visas à l'arrivée. Le sous-coordinateur des relations publiques de la Direction générale de l'immigration du ministère du Droit et des Droits de l'Homme, Ahmad Dur Saleh, dans une déclaration écrite reçue à Jakarta mercredi, a déclaré que les trois pays sont la Colombie, les Maldives et Monaco. Avec l'ajout de ces trois pays, un total de 75 pays ont été soumis à des visas de visite lors d'arrivée de touristes spéciaux. Pendant ce temps, le sujet des installations sans visa pour les visites touristiques spéciales reste 9 pays, à savoir Brunei Darussalam, les Philippines, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Ahmad Nur Saleh a déclaré que la demande de visa de visite à l'arrivée pour un tourisme spécial pourrait se faire dans la zone des arrivées aux entrées aériennes, terrestres et maritimes. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le coin diplomatique intitulé « Le consulat général d'Indonésie à Hambourg fait la promotion des PME indonésiennes, des décorations d'intérieur à l'exposition Nord Steel Sommer 2022 ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé d'État, le consulat général d'Indonésie, KJRI, à Hambourg, a participé à l'exposition Nord Steel Sommer 2022 du 23 au 25 juillet 2022 à Hambourg. L'exposition internationale se tient chaque année en présentant 5 groupes de produits, à savoir les biens de consommation, les meubles, décorations pour la maison et les accessoires. Le design et l'intérieur, les bijoux et les souvenirs papeterie de bureau. L'exposition Nord Steel a lieu depuis 2014 et accueillera jusqu'à 500 exposants ou co-exposants en 2021. Un quart d'entre eux viennent de l'extérieur de l'Allemagne. L'Allemagne est l'un des plus grands pays exportateurs de meubles de l'Union européenne. L'intérêt des consommateurs allemands pour les articles de décoration intérieure augmente d'année en année avec une tendance qui donne la priorité aux aspects de durabilité, notamment le respect de l'environnement, l'attention portée au bien-être des artisans et les aspects de fonctionnalité. Les produits d'ameublement ciblés par les détaillants allemands sont ceux qui utilisent des matériaux naturels respectueux de l'environnement, mais qui ont des designs innovants et modernes. Cela devient une valeur ajoutée du point de vue du consommateur allemand si le produit d'ameublement a également une touche distinctive et exotique. Selon des informations du ministère indonésien des Affaires étrangères, pour l'exposition Nord Steel Sommer de cette année, le consulat général d'Indonésie à Hambourg a coopéré avec des entrepreneurs de meubles de Yogyakarta et de Lombok. Ils produisent des objets artisanaux ménagers modernes et fonctionnels, mais qui ont toujours une touche indonésienne exotique. Le consulat général d'Indonésie à Hambourg coopère également avec des entrepreneurs en céramique de Salatiga qui produisent des produits en céramique pour la décoration de la maison ainsi que des objets fonctionnels pour la cuisine et le ménage, avec une touche moderne, mais mettant toujours en valeur les motifs indonésiens typiques. La présence du producteur de céramique au salon Nord Steel Sommer 2022 ne peut être dissociée du soutien du bureau de représentation de la Banque d'Indonésie, BI, à Londres, étant donné que l'entreprise est un partenaire des petites et moyennes entreprises PME assistées par le bureau de la Banque d'Indonésie de la province Java centrale. Le consulat général d'Indonésie à Hambourg continue de promouvoir les produits indonésiens dans la zone de travail afin d'aider à augmenter les exportations et à relancer l'économie nationale indonésienne après la pandémie. Bon, cher Joytar, c'est tout le coin diplomatique.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Et nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 28 juillet 1966, tremblement de terre de Tangshan. Vous êtes avec Maudrey. Chers auditeurs, le tremblement de terre de Tangshan s'est produit le 28 juillet 1976 avec une magnitude de 7,8. L'épicentre du tremblement de terre était la ville de Tangshan, une ville industrielle en Chine, avec environ 1 million d'habitants. Ce tremblement de terre est appelé le plus important du XXe siècle. Plus de 700 000 personnes ont été blessées. L'impact de ce tremblement de terre a été fatal. Les villes autour de l'épicentre ont été complètement détruites. La secousse a également été fortement ressentie à Pékin, obligeant les habitants à rester dehors cette nuit-là. Nous continuons avec l'événement du 28 juillet 2010, crash du vol AirBlue 202. Le vol AirBlue 202 s'est écrasé dans les montagnes de Margalla le 28 juillet 2010, alors qu'il volait de la ville de Karachi à Islamabad au Pakistan. L'accident causé par une erreur humaine a tué les 152 passagers et membres d'équipage. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 28 juillet, Journée mondiale contre l'hépatite. La Journée mondiale contre l'hépatite est célébrée chaque 28 juillet. Cet avertissement vise à sensibiliser le monde à l'hépatite B et à l'hépatite C et à promouvoir la prévention, le diagnostic et le traitement. Environ 500 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite B ou l'hépatite C. Cette date est tirée de l'anniversaire du professeur Baruch Samuel Bloomberg qui a découvert le virus de l'hépatite B. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja harus bagaimana menghapuskan bayangmu. Tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya?
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour mon Indonésie, intitulé l'Université d'Indonésie, l'UI, produit des bus électriques et se sont prêtes pour une opération de masse. Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé tard, l'Université d'Indonésie, l'UI, a exposé un bus électrique fait maison au Perklindo Electric Vehicle Show 2022. Du 22 au 31 juillet 2022 à JI Expo, l'UI a démontré la capacité des enfants du pays à innover dans le domaine des véhicules électriques, en particulier les transports en commun. Lui et Mobile Anak Bangsa SAMAB travaillent ensemble pour produire la voiture électrique. Ahmad Akbar Habibillah, l'un des étudiants ayant participé aux recherches sur les bus électriques, a déclaré lundi à Jakarta que ce bus électrique est plus léger, mais capable de transporter plus que les autres bus. Le type Lui Electric Bus MD12ENF a été testé avec une capacité de 48 passagers, avec une puissance de batterie de 315,85 kWh. Le bus électrique OUI est capable de parcourir une distance de 250 km sans embouteillage, ne nécessitant que 1,5 à 2 heures de charge de la batterie. En plus de ces innovations, Habib a également développé des innovations sous forme de batteries qui peuvent durer plus longtemps et se recharger plus rapidement. La batterie utilisée est du phosphate de fer au lithium, utilisant deux méthodes pour charger la batterie, à savoir la charge rapide et la charge normale. Habib a déclaré que la forme de la boîte appartenant au bus électrique OUI était destinée à résister au vent lorsqu'il se déplaçait à grande vitesse. Dans un effort pour l'utiliser, le bus électrique OUI est également le premier véhicule électrique à être exploité sur la route de transport de Jakarta, Transjakarta, après la signature d'un accord de coopération entre Mobile Anak Bangsa SA et MAB en tant que fabricant de l'UI bus électrique et Transjakarta SA. À ce sujet, le chef d'état-major présidentiel de la République d'Indonésie, le général à la retraite Muldoko, a déclaré que l'innovation des enfants du pays devrait pouvoir remplacer le rôle des transports publics qui n'est pas respectueux de l'environnement. Muldoko espère que l'existence du bus électrique de l'UI pourra se concrétiser de manière uniforme, en particulier à la périphérie de la capitale Jakarta, où le niveau de pollution est extraordinaire en raison de la densité des véhicules non respectueux de l'environnement. Le bus électrique de l'UI sera testé sur la route Transjakarta pendant 3 mois. Du 1er août à fin octobre 2022, sur la route Duku Atas 2, Ragunan, corridor 6. Le président directeur de MABSA, Kelik Irwantono, s'est félicité de cette collaboration qui était une forme d'engagement de MABSA et lui à faire de Jakarta une ville plus verte et plus ombragée. Bon, cher Jouetard, c'est tout, mon Indonésie.
Begitu hebatnya rasa pahit dan pilu. itu semakin menghujam semua tentangmu.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, il y a quelques jours, tous les musulmans du monde ont célébré l'Eid al-Adha. Lors de l'Eid al-Adha, les musulmans abattent chaque année du bétail en sacrifice. Comme les musulmans en général, les habitants de Kenagarian Bawan, le district d'Ampe Nagari, la résidence d'Agam en province de Sumatra occidentale, abattent également des animaux sacrificiels pendant l'Eid al-Adha. Uniquement avant d'être découpés, les animaux sacrificiels sont généralement décorés. Cette tradition se développe et devient héréditaire. Ils considèrent la croûte moins que parfaite si cette tradition n'est pas respectée. Lors du processus d'abattage, la personne qui sacrifie doit fournir des outils pour décorer l'animal sacrificiel tels que verre, peigne, parfum et autres. Si cela n'est pas fait, le processus d'abattage ne peut pas être effectué. La communauté locale veut que les animaux sacrifiés ne soient pas seulement en bonne santé, mais aussi beaux. Après avoir été déclaré éligible, l'animal sera décoré comme un humain ordinaire en utilisant de la poudre, de parfum, en peigne, en l'essentiel et autres. La poudre utilisée pour les animaux peut être sous n'importe quelle forme et marque. L'objectif est que l'animal à abattre puisse mieux paraître dans l'au-delà et comme véhicule pour ceux qui font des sacrifices. En peigne pour peigner les cheveux sur la tête de l'animal sacrificiel. Le parfum est donné pour donner un arôme parfumé. Le rouge à lèvres est donné si le sacrifice est une femme. Le langsel est un tissu blanc qui est utilisé pour couvrir l'animal sacrificiel avant qu'il ne soit abattu et pour envelopper les ongles de l'animal après qu'il a été abattu et enterré. Le sarong ou long tissu est conçu comme un matériau d'aumône qui sera donné aux 0-10 pour l'abattage des animaux. Chaque tissu fourni est basé sur le sexe de la personne qui sacrifie. Si la personne qui sacrifie est un homme, alors il fournit un sarong, et si le sacrifice est une femme, alors un long tissu est fourni. Après avoir été décoré, l'animal sacrificiel recevra de la nourriture telle que du riz jaune ou silamak, du riz gluant noir, du pignaram, etc. Les outils et le matériel ainsi que la nourriture fournie par la personne qui sacrifie étaient tous donnés à l'animal dans le but de se sentir heureux et de ne pas avoir peur lorsqu'il est battu. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Les étudiants indonésiens remportent 4 médailles d'argent aux Olympiades internationales de chimie 2022. Les étudiants indonésiens remportent 4 médailles d'argent à la 54e Olympiade internationale de chimie. Les Jeux olympiques se déroulent en ligne du 10 au 17 juillet 2022 à Tianjin, en Chine. La médaille d'argent a été remportée par Nathaniel Reza Putrawijaya du lycée Yakobus de Jakarta, Muhammad Dihya Abi Abdi Manaf du lycée KSBS Al-Kautsar Sengsang Sosang Tiang Tasikmalaya, Kevin Lius Bong du lycée Petra Eng Christian Surabaya, et Emilda Putri Aulia de MAN de La Ville de Malang. Ces étudiants indonésiens ont également remporté le prix du meilleur résultat d'expérience virtuelle et le prix du signe d'or pour ses réalisations. Le chef par intérim du Centre national de réalisation, Asep Sukmayadi, a déclaré sa gratitude à l'équipe indonésienne des Olympiades internationales de chimie. Il espère également que cette réalisation pourra continuer à être améliorée et pourra inspirer d'autres jeunes indonésiens à avoir l'esprit de réussite. L'Olympiade internationale de chimie a été participée par 83 pays, en équipe individuelle, en pays observateur avec 326 étudiants, 166 mentors et 140 superviseurs. L'équipe des Olympiades internationales de chimie d'Indonésie 2022 a été entraînée par 3 mentors, à savoir Diana Wahyuningrum, mentor en chef, Fainan Failamani et Irma Mulyani, observatrice scientifique. En outre, ils ont également été assistés par 2 superviseurs, à savoir Aziz Adaris de la chimie de l'Université de Pertamina et Ari Hardian de la chimie de l'Université General Ahmad Yani. L'Olympiade internationale de chimie 2022 est organisée par l'examen d'accès à distance ou mise en œuvre de l'examen dans le pays de chaque participant, considérant qu'il y a encore des pics de cas de COVID-19, notamment en Chine et dans plusieurs pays du monde. Les examens écrits pour les participants ont lieu le 13 juillet 2022. Le processus d'évaluation des résultats des travaux des étudiants, de modération et de détermination des résultats finaux par les mentors et les juges du comité scientifique ICSO 2022 s'est tenu du 10 au 17 juillet 2022 à Tianjin, en Chine. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan.
bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Nunung Wardiman. Chers auditeurs, avec le nom complet Nunung Yulianti Wardiman, elle est connue comme l'une des meilleures chanteuses de jazz en Indonésie. Elle s'est fait connaître depuis la sortie de deux séries d'albums Nada dan Improvisasi en 2081. Après cela, il a sorti un album intitulé Nunung Wardiman en 2083. La chanson principale de cet album s'intitule Surat Undangan, qui a été composé par Julius Fiol. Cette chanson raconte l'histoire d'une femme qui reçoit un jour une lettre de son ex-petite amie qu'elle aime toujours. Même le contenu de la lettre s'est avéré être une invitation au mariage du premier. Bon, chers auditeurs, voici Nunung Wardiman va chanter une chanson intitulée Surat Undangan. Bonne écoute.
Tinggal pergi, tiada kabar berita. Hidupku merana, berdebar hatiku. Tiba ujung suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali yang ku terima. Sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Suratmu, ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak besok akan mengikat janji. Sahabat kariku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Bonjour Jetard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.